RFI, 7h, à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal comme chaque jour. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
60 millions d'électeurs pour départager 4 candidats scrutin présidentiel en Iran.
Élection anticipée après la mort d'Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. 4 candidats, oui, dont un réformateur qui font face à une population désabusée. Lors du précédent rendez-vous électoral, les citoyens avaient snobé en masse le scrutin. Des élections un peu partout dans le monde, puisque dimanche, la France organise, elle, ses législatives anticipées, alors que les États-Unis ont donné le coup d'envoi de la campagne pour la présidentielle de novembre, avec un premier débat entre Joe Biden et Donald Trump qui a semé le doute chez les démocrates. Dans ce journal également, l'inquiétude au Liban. La communauté internationale craint une escalade incontrôlée après de nouveaux échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël et une puissance de feu inédite.
Les bureaux de vote viennent d'ouvrir, retour dans l'isoloir pour 60 millions d'Iraniens.
Le pays tient aujourd'hui une élection présidentielle anticipée pour choisir le successeur d'Ebrahim Raïssi, mort dans un accident d'hélicoptère à la mi-mai. 4 candidats s'opposent, le président conservateur du Parlement, Mohamed Barer Kalibaf, l'ultra-conservateur Saïd Jalili, l'ancien ministre de l'Intérieur, Mostafa pour Mohammadi, également conservateur, et le réformateur Massoud Pezeshkian. Chacun a la lourde tâche de convaincre dans un pays secoué par le mouvement Femme Vie Liberté en 2022 et où les précédentes élections se sont soldées par une abstention record. Siavash Ghazi, bonjour. Vous êtes en direct de Téhéran. Quelles sont les chances des uns et des autres pour ce scrutin ?
Alors, je me trouve dans un bureau de vote dans le centre de Téhéran. Déjà, l'affluence par rapport, par exemple, aux élections législatives d'il y a 2 mois est plus importante. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir il y a maintenant une demi-heure. Il y a plus de monde donc qui se présente ici pour aller voter. Il y a une réelle dynamique depuis quelques jours en faveur du candidat réformateur Massoud Pezeshkian. Toute la question est de savoir si donc les ténors réformateurs et modérés qui se sont largement mobilisés en faveur de Massoud Pezeshkian vont réussir jusqu'au bout donc à mobiliser cet électorat donc réformateur et modéré déçu et désabusé notamment par la situation économique mais aussi par la répression du mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini en 2022, arrêté donc pour mauvais port du voile. En face chez le conservateur, les deux candidats principaux, Saïd Jalili donc qui est un ultra conservateur et Mohamed Baghir Khalibaf, le conservateur qui préside actuellement le Parlement, sont restés en lice malgré tous les efforts pour qu'ils s'unissent avant le premier tour. Il faut maintenant attendre donc les résultats à la fin de la journée pour savoir si l'un des candidats, notamment Pezeshkian, qui est en première place selon les sondages, pourra l'emporter dès le premier tour ou bien s'il y aura un second tour qui sera organisé selon le ministère de l'Intérieur d'ici une semaine.
Siavash Ghazi en direct de Téhéran, merci. Présidentielle à venir aussi aux États-Unis, les délais sont un peu plus longs, l'élection n'aura lieu qu'en novembre, ce qui n'a pas empêché les deux candidats, le sortant Joe Biden et son rival républicain Donald Trump, de lancer dès à présent la campagne avec un débat la nuit dernière. Sans public, sans notes, seuls l'un face à l'autre, les deux hommes se sont confrontés sur l'économie, les droits des femmes ou encore l'immigration. L'un des enjeux majeurs pour Joe Biden, au-delà même de défendre son bilan, était de rassurer les électeurs. À 81 ans, le chef d'État devrait montrer qu'il a toujours les capacités de reprendre son costume présidentiel. David Thompson s'est un peu loupé.
Oui, totalement. Même durant ces 90 minutes de débat télévisé, la voix de Joe Biden était à peine audible, ses mouvements lents, son regard absent. Le président américain a plusieurs fois bégayé, il s'est repris laborieusement, perdu le fil de sa pensée. Et face à lui, Donald Trump s'en est donné à cœur joie. « Je n'ai rien compris à la fin de sa phrase », a-t-il dit à un moment. « Je ne sais même pas s'il sait lui-même ce qu'il voulait dire », dit Trump. Une prestation jugée désastreuse sur les plateaux des chaînes d'infos américaines. Même l'ancienne directrice de communication de Joe Biden est bien obligée de le reconnaître. C'était un débat vraiment décevant pour Joe Biden. Impossible de le dire autrement, dit Kate Bedingfield. Son plus grand défi ce soir était de prouver aux Américains qu'il a l'énergie, la forme pour cette campagne, et c'est pas ce qui s'est passé. Les démocrates passent en mode panique ce soir. Plusieurs, comme l'ancien conseiller de Barack Obama, Van Jones, appellent ouvertement à changer de candidat avant la convention démocrate prévue cet été. Il nous reste du temps d'ici la convention des Van Jones et il faut trouver une autre solution. Il faut qu'ils nous permettent de le faire, parce que ce que nous avons vu de Joe Biden, c'est pas ce que nous voulons voir. C'était douloureux et nous sommes en panique ce soir. Ce débat avait pourtant été demandé par la Maison Blanche. N'êtes-vous pas inquiète, demande un journaliste de CNN à la vice-présidente des États-Unis après ce débat. Ça a commencé lentement, avoue Kamala Harris, elle qui sera chargée de remplacer Joe Biden en cas d'incapacité. Mais Kamala Harris est encore plus impopulaire que lui dans les sondages.
Et au cours de ce débat, merci David, les deux hommes se sont aussi affrontés sur la guerre au Proche-Orient. Joe Biden a défendu l'action de son administration pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Donald Trump, lui, s'est moqué de son rival, devenu d'après lui comme un Palestinien en raison de ses critiques contre Israël.
Israël, dont la puissance de feu s'est à nouveau abattue contre l'enclave palestinienne hier.
Des dizaines de milliers de personnes ont fui le nord de la zone et notamment la ville de Gaza. Situation humanitaire toujours désastreuse dans la bande. D'après un rapport soutenu par l'ONU, près d'un demi-million d'habitants sont confrontés à une famine catastrophique. Affirmation qualifiée de trompeuse et de biaisée par l'État hébreu.
Et dans le nord d'Israël, l'escalade a encore franchi un nouveau cap hier.
Avec toujours des échanges de tirs, de roquettes et de frappes entre l'État hébreu et le Hezbollah. Sauf que ces frappes sont de plus en plus intenses et font craindre à la communauté internationale une escalade incontrôlée, d'autant que cette intensification est aussi verbale. Quand l'armée israélienne assure que des troupes continuent de se préparer pour des scénarios sur le front nord, le Hezbollah rétorque qu'il est prêt à faire face à toutes les éventualités. Paul Ralifey.
Les Libanais ont de quoi s'inquiéter. L'intensification des combats et l'escalade verbale entre Israël et le Hezbollah s'accompagnent de mise en garde de nombreux pays à leurs ressortissants contre les dangers qu'ils encourent au Liban. Jeudi, les États-Unis et la Russie ont appelé leurs citoyens à ne pas se rendre au pays du Cèdre. Ces derniers jours, 6 pays, dont l'Allemagne, le Canada et la Grande-Bretagne, avaient invité leurs ressortissants à quitter le Liban. Ces mises en garde interviennent dans un contexte explosif à la frontière libano-israélienne. Les attaques limitées et les ripostes mesurées que s'étaient imposées les belligérants les premiers mois du conflit ont cédé la place à des échanges de tirs massifs et plus en profondeur. Jeudi, l'aviation israélienne a mené un raid contre la localité de Sohmor dans la plaine de la Beka, à 30 km du front. Le Hezbollah a riposté en tirant des barrages de roquettes vers des positions israéliennes près de la ville de Safad, en Haute-Galilée. L'une des salves comptait une quarantaine de projectiles. Le parti de Hassan Nasrallah a mené 5 autres attaques, dont l'une au drone suicide. L'armée israélienne a déployé jeudi une puissance de feu inhabituelle. Une vingtaine de localités libanaises ont été ciblées, dont 10 par des raids aériens. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
RFI, 7h08. À Paris, en France, la majorité présidentielle déchue à la peine avant les législatives anticipées.
Plusieurs sondages successifs font le même constat. Dans les intentions de vote, le camp d'Emmanuel Macron décroche invariablement la troisième place, loin derrière l'Union de la gauche sous la bannière du Nouveau Front Populaire et surtout très loin derrière le Rassemblement National d'extrême droite. Valérie Gasse, le premier tour de dimanche a donc tout d'un test pour l'ex-majorité.
Ce qui se joue dimanche soir, c'est le premier round d'un match à l'issue duquel le camp du président veut éviter de sortir KO la semaine suivante, après une séquence dissolution-clarification voulue par Emmanuel Macron. L'enjeu de ces législatives est donc crucial et les sondages ne sont pas encourageants. Après une remontée de quelques points, Renaissance et ses alliés stagnent aux alentours de 20% des intentions de vote, 7 à 9 points derrière l'Alliance des Gauches et 13 à 15 points derrière le Rassemblement National. Malgré une campagne hyperactive de Gabriel Attal, matin, midi, et soir sur le terrain et dans les médias, beaucoup de candidats et de cadres ont du mal à y croire. Un macroniste de la première heure, fidèle au président, ne se fait plus d'illusions et envisage déjà 300 députés RN à l'Assemblée nationale. Les résultats au premier tour des ministres en lice seront un indicateur du résultat final. 24 sont candidats, notamment Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Stéphane Séjourné, Marie Lebec, Aurore Berger, Franck Riester, Sabrina Agresti-Roubache, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne aussi. Il y a deux l'enjeu, garder des troupes à l'Assemblée et des ténors pour exister.
Et la potentielle arrivée au pouvoir du Rassemblement national préoccupe bien au-delà des frontières françaises. Illustration au Sénégal, où de nombreux étudiants ont des liens avec la France et regardent avec inquiétude les turbulences de la politique française. Notre correspondante Juliette Dubois a rencontré plusieurs de ses étudiants à l'université Cheikh Diop de Dakar.
Ambiance studieuse sur un banc de l'université, Ousmane Diangar, en première année de nutrition, bûche avec un camarade à l'approche des examens, mais il suit de très près la politique française et les débats de ces dernières semaines.
Le RN prône des opinions qui divisent, notamment quand ils disent qu'ils vont éliminer les deux nationalités. Et voilà, moi aussi ça me préoccupe parce que j'ai de la famille en France et qui nous aide ici, nous qui sont au Sénégal, et surtout leurs postes, ils sont plus... en sécurité.
Ousmane envisage aussi de poursuivre ses études dans l'Hexagone, mais il se demande si ce sera possible.
Nutrition humaine et diététique, ici il n'y a qu'un master, il n'y a pas le doctorat. Donc forcément, les pays qui sont ouverts à moi sont la France et le Canada. Et avec la France, ça sera beaucoup plus facile puisque c'est un pays dont nous avons des liens. Mais voilà, j'ai vraiment peur de ce qui va se passer pour cette union quand les extrémistes arriveront au pouvoir.
Oum Kalsoumba, elle, est en première année de droit. Elle a renoncé à envisager de se rendre en France pour une partie de son cursus.
C'était dans mes projets, mais plus maintenant. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé en France et c'est pas normal. J'ai peur d'être mal accueillie et maltraitée là-bas, surtout pour nous les voilés. Parce que genre, je vois certaines choses dans les réseaux sociaux nous concernant. Nous sommes marginalisés là-bas. Ça m'a donné envie de rester au Sénégal pour servir mon pays.
Selon l'OCDE, environ 160 000 émigrés sénégalais résidaient en France en 2020. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et puis, Léa, une fois n'est pas coutume, pas de musique ce vendredi, mais une sortie cinéma dans nos pages culture avec Le Comte de Monte Cristo.
Et normalement, en France, les films sortent le mercredi, mais Le Comte de Monte Cristo fait une entorse à la règle. Et ce n'est pas un hasard, la fête du cinéma et ses prix réduits démarrent dans 2 jours. Le film réalisé par Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte pourrait être le prochain succès du box-office. Entre un classique de la littérature française, 40 millions d'euros de budget et un casting 3 étoiles, Sophie Torlotin.
Le jeune marin Edmond Dantès s'apprête à devenir capitaine d'un navire marchand et épouser celle qu'il aime. Mais 3 rivaux jaloux vont se liguer pour l'envoyer en prison. Quand il s'en évade miraculeusement 15 ans plus tard, Edmond Dantès met la main sur un immense trésor et va mettre à profit sa fortune colossale pour assouvir sa vengeance.
Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent !
Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte ont fait des choix dans les 1400 pages du roman d'origine, mais ils en gardent l'esprit. Un savant mélange d'histoires romantiques, de récits d'aventures et de réflexions sur la noirceur humaine. Porté par Pierre Ninet, impeccable dans le rôle-titre, ce conte de Monte Cristo, bien que se déroulant au XIXe siècle, se révèle très moderne. Alexandre de la Patellière.
C'est le récit aussi du pouvoir de l'argent, des fake news et du destin d'un homme richissime, complètement individualiste. C'est un anti-Robin des Bois. Il y a quelque chose de très contemporain dans sa manière de se venger, dans sa manière de créer ce théâtre des illusions. Le personnage en lui-même et son parcours, il est très moderne.
Je suis le comte de Monte Cristo.
De quoi séduire les spectateurs du 21e siècle qui goûteront ce divertissement français populaire et de qualité.
Le comte de Monte Cristo en salle dès aujourd'hui en France.
Merci Léa Boutin-Rivière, à tout à l'heure. Vendredi 28 juin 2024, bienvenue à vous, RFI Matin. 3 heures d'information et les États-Unis à la une. Un premier débat qui n'a pas dissipé les inquiétudes cette nuit à moins de 5 mois de la présidentielle. Joe Biden et Donald Trump face à face sur CNN. L'ancien président ne s'engage pas à reconnaître sans condition les résultats du scrutin. L'actuel président inquiète dans son camp, ralenti, confus, brouillon sur la forme. Peut-il vraiment être candidat ? On fait le point à 6h, temps universel. Guillaume Nodin nous appelle de Washington. Une autre élection bien plus proche, à la une également, le premier tour en France dimanche des législatives anticipées. Fin de campagne ce soir et le Rassemblement National toujours en tête. Quelle est la cartographie du vote RN ? La progression du parti d'extrême droite a-t-elle surpris ses experts ? Que faudra-t-il regarder au soir du premier tour pour anticiper le second ? Notre invité dans une heure pour en parler, Hervé Lebras, démographe et historien, sera avec nous. 5h14 en temps universel. Mais pour commencer ce matin, à la une en Asie, cap sur Hong Kong, où c'est une première en ce mois des fiertés LGBT+. À Hong Kong, 10 couples de même sexe se sont mariés collectivement mardi, en visioconférence avec les États-Unis. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Julien.
Un mariage hors du commun pour sceller leur amour, mais aussi peut-être pour franchir un pas de plus vers la légalisation du mariage pour tous.
Tout à fait, Julien. 20 amoureuses et amoureux en robe de mariée ou en smoking se sont dit oui dans une ambiance festive. Écoutez.
Yes, I do.
Yes, I do.
Les 10 couples ont donc scellé leur union à Hong Kong, tandis que l'officier d'état civil qui conduisait cette cérémonie se trouvait, lui, à 12 000 kilomètres de là, dans l'état américain de l'Utah, visible seulement sur un grand écran. Pour une raison simple, les autorités hongkongaises ne reconnaissent pas encore le mariage pour tous, et l'état de l'Ouest américain est l'un des seuls qui autorise aujourd'hui le mariage par visioconférence. Luca Peng, un homme d'affaires de Singapour, est heureux d'avoir enfin pu convoler en noces avec son partenaire de longue date. Il espère que cette cérémonie collective enverra un signal au monde.
J'espère qu'un jour, tout le monde admettra que l'amour n'existe pas seulement entre un homme et une femme, mais entre deux personnes qui s'aiment.
Il reste pourtant du chemin à faire, Heike, puisqu'en septembre dernier, la plus haute juridiction de Hong Kong a rejeté la reconnaissance des mariages entre personnes du même sexe, y compris ceux contractés à l'étranger.
Oui, c'est vrai, Julien, mais dans ce même verdict, les juges ont estimé que le gouvernement contrevenait à son obligation de reconnaître légalement les couples du même sexe comme les unions civiles. Et ils ont accordé un délai de 2 ans aux autorités pour créer un cadre légal. C'est important, notamment pour garantir aux couples homosexuels les mêmes droits concernant, par exemple, les impôts, les soins médicaux ou encore l'héritage.
C'est un jugement qui a donné de l'espoir à la communauté LGBT+ de Hong Kong?
Oui, bien sûr. Depuis, les couples lorgnent sur les 3 autres pays asiatiques qui ont déjà franchi le pas. C'est le cas de Taïwan, qui a ouvert le bal en 2019, du Népal ou encore de la Thaïlande. La Thaïlande où le Sénat a donné son feu vert ce mois-ci au mariage pour tous, après des décennies de lutte.
Mais à part ces 3 pays précurseurs, les autres nations asiatiques reste encore à la traîne, Heike.
Oui, mais au Japon, par exemple, les choses bougent. 2 tribunaux japonais ont récemment jugé l'interdiction du mariage pour tous non conforme à la Constitution. Dans d'autres pays, à majorité musulmane, l'homosexualité même reste encore illégale. C'est notamment le cas en Malaisie. En Indonésie, elle n'est pas interdite, mais les discriminations sont multiples. Et quant à la Chine, Julien, aucun cadre légal n'existe à ce jour pour l'union homosexuel. Et c'est justement ça, pour cela, que ce mariage collectif célébré cette semaine à Hong Kong est si symbolique.
Heike Schmidt pour À la Une en Asie. Merci beaucoup. RFI. Et un œil sur les journaux français au dernier jour donc de la campagne électorale. Avant le premier tour des législatives anticipées dimanche, une presse traversée notamment par le vertige d'une éventuelle cohabitation entre le Rassemblement National et Emmanuel Macron. L'effacement du camp présidentiel. Emmanuel qui s'interroge d'ailleurs Libération à sa une, décrivant la prise de distance avec le président des candidats de la majorité déchus. Eux qui luttent dans leur circonscription pour leur survie politiques sont désormais au mieux indifférents aux faits et gestes du président, écrit Libération. Au pire, ils redoutent une énième déclaration délétère. Les députés élus le 7 juillet sous sa bannière auront cette fois sauvé leur siège malgré lui, poursuit plus loin le quotidien de gauche. Et une ministre prévient déjà, si on s'en sort, il ne faudra plus rien nous demander. Quoi qu'il arrive, ce sera une cohabitation avec le président de la République. La cohabitation, justement, se profile-t-elle avec l'extrême droite? Le Rassemblement National est toujours en tête et hier, Marine Le Pen a déclenché la polémique en estimant que dans ce cas, le titre de chef des armées du président ne serait qu'honorifique. Vrai débat constitutionnel, difficile à trancher. Tout est question d'interprétation sur ce que le président pourra vraiment faire ou pas, décrypte un stratège de l'exécutif dans Le Parisien. Pendant que Le Figaro analyse la passe d'armes d'hier et tire les cartes d'une cohabitation Macron-Bardella, ce premier désaccord frontal laisse entrevoir une bataille doctrinale qui pourrait faire rage au sommet de l'État. Et puis, loin de ces spéculations, la gauche, elle, veut toujours croire à une victoire du nouveau Front Populaire. À la une de l'Humanité, l'économiste Julia Cagé se prend projette et évoque l'importance de la mobilisation de la société civile si le NFP arrive à Matignon. Pour que la gauche, dès le 8 juillet, tienne l'ensemble de ses engagements, elle aura contre elle plusieurs freins, à commencer par les marchés financiers. Il n'y a jamais eu en France de grands progrès sociaux sans mouvement populaire. 7h19 à Paris. Et à quoi ressemble sur le terrain la profonde recomposition politique engagée par la dissolution ? Reportage ce matin, pas loin de Paris, dans la 7e circonscription des Yvelines. Face à face dans les urnes ce dimanche, ici une ancienne ministre démonétisée par le rejet d'Emmanuel Macron, un autre macroniste investi cette fois par le nouveau Front Populaire et une candidate RN LR qui veut surfer sur la vague des européennes. Écho d'une campagne tendue avec Raphaël Delvolvé.
Arrêtez de crier, s'il vous plaît.
D'habitude, si tranquille, l'ambiance sur les marchés est lourde.
Et quand on fait du racisme anti-blanc, madame, c'est quoi pour vous ?
Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme ?
Qu'est-ce que ça veut dire, des ratonnades, madame, dans ces cas-là ? Je vous retourne le propos.
Ce vif échange entre sympathisants du Rassemblement National et du nouveau Front Populaire n'a rien de surprenant. La campagne très courte échauffe les esprits et rebat les cartes. Le RN, arrivé en tête ici aux européennes, croit pouvoir remporter cette circonscription pour la première fois de l'histoire. Leur candidate, la cuisinière guadeloupéenne Babette de Rosière, également soutenue par Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains.
Je pense que ça sent bon. Moi, en tant que cuisinière, je peux vous dire que je connais les bonnes odeurs. Il est où ? Il est passé où, Macron ? Il se cache ? On ne va pas quand même laisser le fond de gauche nous bouffer. Moi, je rêve d'être au deuxième tour contre le Front Populaire. Voilà.
Et si son rêve se réalise, ce sera un duel face à un candidat inattendu, un ancien ministre d'Emmanuel Macron passé à gauche pour les législatives, Aurélien Rousseau.
Moi, je sais sur quoi je suis engagé, sur 10 points du nouveau Front Populaire. Et le premier de ces points, c'est de faire barrage au Rassemblement National.
Son changement de bord lui pose une difficulté. Ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, il a coécrit avec l'ex-première ministre la très controversée réforme des retraites qu'il promet aujourd'hui d'abroger. Évidemment, il passe son temps à se justifier.
C'était pas le professeur Nimbus dans son laboratoire avec des éprouvettes pour faire la réforme des retraites. J'étais pas un ministre. Je n'ai pas de problème à dire qu'une réforme des retraites qui serait remise à plat, retravaillée, elle est indispensable.
Une perche tendue à son ancienne collègue et désormais adversaire, la députée sortante et ancienne ministre Nadia Hay. La candidate du camp présidentiel appuie là où ça fait mal.
Il est en total décalage avec ce qu'il a offert ces deux dernières années, ce qu'il a porté, ce qu'il a défendu et cette investiture qu'il a obtenue de cette NUPES 2.
Mais Nadia Hay aussi a son boulet à tirer.
Je pense qu'Emmanuel Macron est responsable de la montée de l'extrême droite en France.
Soit vous voulez discuter, soit vous voulez pas discuter.
Et quand ça n'est pas Emmanuel Macron dont elle a retiré le visage de ses tracts, elle doit sans cesse expliquer la dissolution.
Il n'aurait pas dû dissoudre.
Mais vous pouvez pas.
Il avait pas écouté, j'en sais rien.
Mais s'il avait pas dissous, on lui aurait dit, il n'a pas écouté les résultats, il voulait enjamber les résultats des européennes.
La 7e circonscription des Yvelines pourrait bien être le théâtre d'une surprise dimanche soir. Aux dernières européennes, Rassemblement National et Parti de gauche ont récolté plus de la moitié des voix. Mais dans une élection législative, il y a deux tours. D'abord on choisit, puis on élimine. Le suspense reste donc entier.
Raphaël Delvolvé dans la 7e circonscription des Yvelines où les électeurs pourront aussi voter pour 4 autres candidats. On les cite, Ali Kaya pour Lutte Ouvrière, Jacques Lefebvre pour le Parti des Travailleurs, Colette Aubré pour Reconquête et Julien Fré-Jabu pour Les Républicains. Et nous revoilà sur les routes des États-Unis, la suite de notre balade musicale jusqu'à la présidentielle américaine du 5 novembre. Bonjour Julien Grosso.
Bonjour Julien.
Après la Nouvelle-Orléans, le sud de la Louisiane et l'état du Mississippi, on continue aujourd'hui notre remontée du Mississippi, le fleuve nourricier de la musique américaine.
Vous sentez ces effluves de whisky, Julien ? Elle ne trompe pas, on arrive dans le Tennessee.
You're as sweet as strawberry wine.
Chris Stapleton, une des figures de la nouvelle génération de la country américaine avec Tennessee Whiskey, sa reprise en 2015 d'une chanson du début des années 80. Le Tennessee et le whisky, Julien, c'est une longue histoire.
Oui, et même une véritable tradition grâce à un savoir-faire qui remonte au 19e siècle quand les pionniers d'origine écossaise et nord-irlandaise se sont installés dans les contreforts des Appalaches.
Et ils n'ont pas importé uniquement leur art de la distillation.
Et non, dans leur traversée de l'Atlantique, les immigrés britanniques emportent quelques tonneaux de whisky pour supporter la dureté du voyage en bateau, mais ils emportent aussi des chansons traditionnelles qui peu à peu se diffusent dans l'est des États-Unis et s'enracinent notamment dans la région des Appalaches, à l'est du Tennessee.
Et c'est ainsi que naît...
la country. Un peu plus tard, dans les années 20, à Nashville, la capitale du Tennessee, une radio locale commence à consacrer une émission hebdomadaire à la country. L'émission gagne vite en popularité et draine rapidement en ville les aspirants chanteurs, les apprentis musiciens et finalement, à partir des années 50, l'émission sous-tend toute une industrie organisée autour des studios de RCA et Columbia Records. En quelques décennies, Nashville gagne ses galons de capitale de la country, genre majeur aux États-Unis et devient alors Music City USA.
It all started in this little town way down in Texas when I first heard old Johnny Cash singing prison blues. I picked my guitar like a fool and read them country magazines, keeping up the snuff on the Music City News.
Bobby Bear, grande voix de la country, juste derrière Johnny Cash, Willie Nelson ou Dolly Parton. Bobby Bear qui célèbre Nashville avec le titre Music City USA en 1979. Nashville, ce n'est pas la seule grande ville de musique du Tennessee.
Le Tennessee, c'est un seul état, mais avec deux immenses villes de musique. Nashville, une ville blanche au centre du territoire d'un côté, et Memphis, une ville noire à l'ouest sur les bords du Mississippi de l'autre. Deux villes à l'identité musicale radicalement différente.
Justement, c'est quoi l'identité musicale musicale de Memphis?
Mississippi oblige, Memphis est d'abord une ville de blues.
B.B. King avec Why I Sing the Blues en 1969, un titre dans lequel il évoque Beale Street, le cœur battant du Memphis musical, où se concentrent de nombreux clubs de musique live.
B.B. King a beau être originaire du Mississippi, c'est à Memphis qu'il vient faire carrière à la fin des années 40, et aujourd'hui encore, 10 ans après sa mort, il reste un des symboles de Beale Street, que le Congrès américain, en 1977, a consacré Home of the Blues, c'est-à-dire le temple du blues en français.
Memphis, capitale du blues, devenu, au milieu des années 50, le berceau du rock.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me.
Memphis, chanté par son fils préféré, Elvis Presley, qui reprend ici Chuck Berry.
Fils préféré, mais fils adoptif. C'est à Memphis, en 1954, que le gamin de Tupelo, Mississippi, vient enregistrer ses premières chansons dans un petit studio monté par un certain Sam Phillips. Le studio s'appelle Sun Records, il ne paye pas de mine, mais Sam Phillips en fait un véritable accélérateur de particules. Des particules de musique noire, le rhythm and blues, rencontre des particules de musique blanche, la country, et c'est l'explosion et la naissance du rock'n'roll ici, à Memphis.
Des particules de musique noire, des particules de musique blanche, ce sera aussi la recette d'un autre label mythique.
De musique soul cette fois, quand Jim Stewart lance Stax Records à la fin des années 50. Il réunit des musiciens blancs et noirs pour monter son orchestre maison, qu'il baptise Booker T and the MGs. MGs pour Memphis Groups. Le groupe écrira pendant une décennie une des plus belles pages de la musique américaine, en accompagnant une écurie de signatures allant de Sam and Dave à Otis Redding en passant par Eddie Floyd ou Albert King. Et Stax à Memphis se posera en grand concurrent de Motown à Détroit.
Le mélange de Memphis, une belle histoire, mais qui restera hélas limitée à la musique.
Memphis est aujourd'hui une des villes les plus dangereuses des États-Unis, dans un état du Tennessee ultra conservateur, qui sera promis en novembre à Donald Trump, évidemment.
Pas de suspense donc dans le Tennessee. La semaine prochaine, on continue notre remontée du Mississippi. Merci Julien Grosso.
À bientôt Julien.
À bientôt. Pour Booker T and the MJs, le son de Memphis pour vous accompagner en ce vendredi matin. Et sur RFI, l'info continue, le journal dans une minute.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons des troubles et maladies de la thyroïde, hypo-hyperthyroïdie. Un endocrinologue à votre écoute.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Nous revenons sur les folles rumeurs autour du CFA et les accusations infondées contre la France. Avec Kélian Sanz-Pasquale de GEOD, Centre de géopolitique de la datasphère, nous évoquons la stratégie de désinformation russe et la construction de l'image de l'Occident comme origine de tous les maux dans certains pays d'Afrique.
Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.